biographie de Jeanne d'Arc telle qu'on la trouve sur le site roiepresident.com. Deuxième partie de 2. Chapitre 10. Le 20 juin, Jeanne se rendit à Saint-Benoît-sur-Loire, où elle rendit compte de la victoire de Patay. Le 22, à Châteauneuf-sur-Loire, un conseil fut tenu. On décida d'aller sans tarder à Reims et avant de rassembler tout à Gien. On fixa la date du départ au 27 juin. Le 25, Jeanne écrivit aux habitants de Tournai, entre guillemets. Jésus-Marie, gentils loyaux français de la ville de Tournai, la pucelle vous fait savoir des nouvelles que en 8 jours elle a chassé les Anglais de toute place qu'ils tenaient sur la rivière de Loire par assaut, et autrement que beaucoup sont morts ou ont été capturés, et les a battus dans une bataille, et elle croit que le comte de Suffolk, le Pole, son frère, le sire de Talbot, le sire de Scales, et messire Jehan Falstaff, et plusieurs chevaliers et capitaines ont été pris, et que le frère du comte de Suffolk est mort. Maintenez-vous bien, loyaux français. Je vous en prie, et vous prie et requiert que vous soyez tous prêts de venir au sacre du gentil roi à Reims, où nous serons dans peu de temps. Et venez au-devant de nous quand vous saurez que nous approchons. À Dieu je vous recommande. Dieu soit bonne garde de vous et vous donne grâce que vous puissiez maintenir la bonne querelle du royaume de France. Écrit à Gien le 25e jour de juin. Fin de la citation. Le 27, l'avant-garde se mit en marche et le 29, ce fut le tour du gros de l'armée. Le 3 juillet, toute l'armée cerna Auxerre, qui était du parti anglo-bourguignon. On négocia et les Auxerrois firent la promesse d'être obéissants, ce qui épargna la cité. Les 3 et 4 juillet, Brimond, l'archevêque, Saint-Florentin et Saint-Phal se donnèrent aux Français. De Saint-Phal, Jeanne écrivit aux habitants de Troyes. Jésus Maria, très chers et bons amis, s'il ne tient à vous, seigneurs, bourgeois et habitants de la ville de Troyes, Jeanne la Pucelle vous mande et fait savoir de par le roué du ciel son droicturier et souverain seigneur, duquel elle est chacun jour en son service royal, que vous fassiez vraie obéissance et reconnaissance du gentil roi de France, qui sera bientôt à Reims et à Paris, qui, que ce soit qui vienne contre lui, et en ces bonnes villes du Saint-Royaume, à l'aide du roi Jésus. Loyaux Français, venez au-devant du roi Charles, et qu'il n'y ait point de faute, et ne vous doutez de vos corps ni de vos biens, si ainsi vous faites. Adieu, je vous recommande, que Dieu vous garde, s'il lui plaît. Réponse brief. Devant la cité de Troyes, écrite à Saint-Phal, le mardi 4e de juillet. Fin de la citation. Le 5, on arriva devant Troyes. On négocia vainement. Le dauphin réunit son conseil. La Pucelle vint, entre au conseil et dit ses paroles ou d'autres semblables. Noble dauphin, ordonnez à vos troupes d'assiéger la ville de Troyes sans poursuivre de plus longues délibérations, car, en nom Dieu, avant 3 jours, je vous ferai entrer en cette cité par amour ou par puissance et force, et la Bourgogne, pleine de fausseté, sera très stupéfaite. Alors la Pucelle avança aussitôt avec l'armée royale, fixa les têtes au long des fossés et prit telles admirables précautions que n'auraient pas prises 2 ou 3 chefs de guerre plus exercés et plus fameux. Elle travailla toute cette nuit-là que le lendemain, l'évêque et les citoyens de la cité, effrayés et tremblants, se placèrent dans l'obéissance royale. Fin de la citation. Le dauphin fit son entrée solennelle le 10 juillet. Le 12, on quitta Troyes pour aller à Châlons. Des émissaires, rencontrés à Bussy-Lettré, lui remirent les clés de la ville, en laquelle Charles entra le 14. Le 15, l'armée du Sacre arriva à Sept-Sceaux. Le 16, le dauphin reçut une délégation de Rémois, qui lui remit les clés de la ville. Dans la soirée, Charles fit son entrée dans Reims, où il fut sacré le lendemain par l'archevêque Regnault de Chartres. Entre guillemets. Jean Tirouet aurait exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je levasse le siège d'Orléans et que je vous amenasse en cette cité de Reims recevoir votre Saint-Sacre en montrant que vous êtes vrai roué et celui auquel le royaume doit appartenir. De la citation. Dans la même journée, Jeanne retrouva son père, son frère Pierre et Durand Laxar qui étaient venus assister au sacre. Elle écrivit aussi au duc de Bourgogne. Elle le priait de faire, entre guillemets, bonne paix ferme qui dure longuement, fin de la citation, avec le roi. Philippe de Bourgogne fit la sourde oreille. Chapitre 11. Après le sacre, Jeanne était bien décidée de profiter de son avantage en reprenant Paris, mais le roi prit son temps. Le 21 juillet, le roi se rendit à Corbeny, où il toucha les écrouelles, selon la tradition capétienne. Le 23, les Françaises étaient à Soissons, du 27 au 31 à Château-Thierry. Le 1er août, l'armée était à Montmirail, du 2 au 5 à Provins, où Jeanne écrivit aux Rémois qu'elle ne les abandonnerait jamais. Le 7, on était à Coulommiers. Bedford lança un défi à Charles en lui proposant bataille. Bien entendu, refus du roi. On se rendit ensuite à la Ferté-Milon, le 10, puis à Crépy-en-Valois, le 11, à Lagny, le 12. Ce même jour, Bedford nomma le duc de Bourgogne gouverneur militaire de Paris. Celui-ci envoya à sa place Louis de Luxembourg. Le 13, Françaises et Anglais se retrouvèrent face à face à Montepilloy, mais le combat ne fut pas engagé. Du 17 au 28 août, Charles VII tint sa cour à Compiègne. Le 21, lui et Bourgogne signèrent une trêve de 4 mois qui n'incluait pas Paris. Durant le mois d'août, Xaintrailles et Laïr, sur qui l'inactivité pesait, firent une expédition en Normandie, où ils prirent notamment Aumale, Torcy et Château-Gaillard. Où fut délivré le fameux Barbazan qui croupissait là depuis 9 années. Le 23, Jeanne et d'Alençon quittèrent Compiègne et se dirigèrent vers Saint-Denis, que les armées françaises investirent le 25. Le 7 septembre, le roi les rejoignit avec son armée. Le 8, une partie de cette armée échoua dans son attaque contre les portes Saint-Honoré et Saint-Denis, à cause notamment des bombardes parisiennes, qui firent grand dommage. Jeanne fut blessée et son porte-étendard fut tué. Entre guillemets, même si les Armagnacs avaient été 4 fois plus nombreux et mieux armés qu'ils étaient, ils n'auraient pas pris la dite ville de Paris par assaut ou en faisant le siège tant qu'il y aurait eu des vivres dans la ville, qui en était d'ailleurs bien pourvu pour très longtemps. Les habitants s'étaient unis avec les gendarmes pour résister à l'assaut et à l'entreprise susdite. Fin de la citation. On peut se demander si le roi et ses conseillers souhaitèrent l'échec de cette entreprise. Deux points. Les velléités guerrières de Jeanne gênaient la diplomatie du roi, qui cherchait à gagner du temps et à faire sa paix avec Bourgogne. Bref, tout ceci entraîna la démobilisation de l'armée à Gien le 21 septembre. Cet automne 1429 fut pour Jeanne bien triste. Il semblait que le roi ne lui faisait plus confiance. Aussi fut-elle envoyée à Bourges, où elle fut confiée au lieutenant général du Berry, Charles d'Albret. En octobre, on chargea Albret, Boussac, le comte de Montpensier et Jeanne d'éliminer Perrin Grassard, un routier qui tenait la charité sur Loire et qui ravageait la région. D'abord, on assiégea Saint-Pierre-le-Moutier, qui tomba le 4 novembre. Le 9, Jeanne écrivit aux habitants de Rion, deux points, entre guillemets. Saint-Pierre-le-Moutier a été prise d'assaut, et avec l'aide de Dieu, j'ai l'intention de faire vider les autres places qui sont opposées au rouet, mais comme il a été fait grande dépense de poudre, traits et habillement de guerre devant la dite ville, nous en sommes dépourvus pour aller mettre le siège devant la charité où nous allons prestement. Je vous prie de vouloir envoyer et aider pour le dit siège, poudre, salpêtre, soufre, traits, arbalètes fortes et autres habillements de guerre. » Fin de la citation. Ces munitions arrivèrent trop tard ou n'arrivèrent pas. Le 24 novembre, les Français mirent le siège devant la charité. La place résista jusqu'au 25 décembre, date à laquelle Albret, Jeanne et les autres décidèrent de lever le siège, faute de munitions, de vivres et d'assistance. 12e chapitre. Les trêves avec la Bourgogne devaient se terminer à la Noël 1429. Elles furent prorogées jusqu'au 16 avril 1430. Le 13 février, le duc de Bedford octroya la Champagne et la Brie au duc de Bourgogne, à charge pour celui-ci de s'en emparer. Pendant ce temps, Jeanne s'ennuyait, entre guillemets, à Bourges, puis à Sully-sur-Loire, où elle écrivit par deux fois aux Rémois pour les assurer de son soutien immédiat si Philippe de Bourgogne les attaquait. Début avril, Jeanne, avec Jean d'Aulon et son frère Pierre, quitta Sully avec une troupe de 300 à 400 routiers piémontais, commandés par Barthélemy Barretta, soldés par l'argent royal. Ils partirent en direction de l'Île-de-France, où ils escarmouchèrent, entre guillemets, contre les routiers de Franquet d'Arras. Celui-ci fut pris et exécuté après procès, et ses hommes tués pour la plupart. Le 22, Jeanne était à Melun, qui venait de se libérer des Anglais. Là, ses voix lui dirent qu'elle sera prise avant la Saint-Jean, c'est-à-dire le 24 juin. Le 23 avril, 2 à 3 000 Anglais débarquèrent à Calais dans le but d'aider les Bourguignons à reconquérir les villes et forteresses qu'ils avaient perdues. Le 25, Jeanne apprit que les trêves avec les Bourguignons était terminée. Alors elle demanda des renforts au roi, qui ne vinrent jamais. Le 6 mai, les Bourguignons s'emparèrent de Gournay, non loin de Compiègne, et le 7, ils mirent le siège devant Choisy-au-Bac. Le 13, Jeanne entra dans Compiègne, et le 15, avec ses routiers, elle attaqua par surprise les assiégeants de Choisy. Les Français y obtinrent un très honorable succès, mais ils furent tout de même obligés de se replier vers Compiègne. Le 17, Jeanne retourna à Crépy, où elle resta jusqu'au 21. Le 20, les Anglo-Bourguignons vinrent mettre le siège devant Compiègne, avec 3 à 4 000 hommes. Cette cité était défendue par le gouverneur militaire Guillaume de Flavy, qui était, entre guillemets, Moultardi et vaillant homme de guerre, mais des pires en vilenie, en femme et luxure, dans l'art de voler, piller, faire noyer, faire pendre et faire mourir les gens. » Fin de la citation. En tout cas, Compiègne résistera et ne sera pas prise. Le 23 mai, au petit matin, Jeanne et ses troupes pénétrèrent dans Compiègne. En fin d'après-midi, vers 17h, Jeanne et 600 gendarmes firent une sortie en direction du nord. Xaintrailles et Flavy restèrent dans la place. Rapidement, un combat bref et âpre s'engagea. Les Français y furent très vaillants, mais ils furent obligés de retraiter, étant trop peu nombreux, et furent poursuivis par leurs ennemis jusqu'à Compiègne. Entre guillemets, lorsque le gouverneur vit les Anglais et les Bourguignons près d'entrer sur le pont, par la crainte qu'il avait de la perte de sa place, il fit lever le pont et fermer la porte. Fin de la citation. Ne pouvant entrer dans la ville, Jeanne essaya de fuir par les champs. Et c'est là qu'elle fut, avec son frère et d'Aulon, faite prisonnière. Et le bâtard de Wandome, qui était au comte de Ligny, l'emmena de force. Le 25, Philippe de Bourgogne écrivit au duc de Savoie, deux points, entre guillemets, « Nous sommes grandement réconfortés de la guerre, car le 23 mai, vers 6h, les assiégés ayant fait une sortie, celle qu'ils appellent la Pucelle, et plusieurs autres capitaines, chevaliers, écuyers et autres ont été pris, noyés et tués. » Fin de la citation. 13e chapitre. Anglais et Bourguignons sautaient de joie. Le nombre des ennemis, tués ou noyés, était pour peu de choses dans leur joie. Leur triomphe n'était point là, c'est la France qu'ils avaient vaincue. Ces quelques mots du chroniqueur Chastelain résument assez bien la situation. La capture de la Pucelle était d'une valeur inestimable pour les Anglo-Bourguignons. On peut comprendre, vu l'effet bénéfique que Jeanne apportait à l'armée et au peuple français. Le bâtard de Wandome, ou peut-être Vandome, emmena ensuite Jeanne à Margny. Elle y fut vendue à Jean de Luxembourg, comte de Ligny, vassal de Philippe de Bourgogne. Le 26 mai, la Sainte Inquisition, en accord avec l'Université de Paris, réclama au duc la prisonnière pour la faire comparaître, deux points entre guillemets, « Nous vous supplions de bonne affection, très puissant prince, et nous prions vos nobles vassaux, que par vous ou par eux, la dite Jeanne nous soit envoyée par-de-ça sûrement et dans peu de temps, et nous espérons que vous agirez ainsi comme de vrais protecteurs de la foi. » Fin de la citation. Mais le duc ne paraissait pas pressé de livrer la jeune fille à l'Inquisition, car il reçut plusieurs lettres de rappel en provenance de l'Université de Paris. Du 26 mai au 10 juillet, Jeanne fut enfermée à Beaulieu. Du 10 juillet à début novembre, à Beaurevoir, où elle fut « chaperonnée » entre guillemets par Jeanne de Béthune et Jeanne, comtesse de Ligny, respectivement femme et tante de Jean de Luxembourg. C'est à Beaurevoir que Jeanne tenta de s'évader en sautant du haut de la tour où elle était enfermée. Elle échoua. Le 14 juillet, l'évêque Cochon écrivit à Bourgogne et Luxembourg, entre guillemets, que cette femme que l'on nomme communément Jeanne la Pucelle soit envoyée au roi d'Angleterre pour être livrée à l'Église, pour lui faire son procès, parce qu'elle est soupçonnée et diffamé d'avoir commis plusieurs crimes, tels que sortilège, idolâtrie, invocation de démons et plusieurs autres cas touchant notre foi. Trois points. Pour dédommager ceux qui l'ont prise et retenue, le roi veut libéralement leur bailler jusqu'à la somme de 6 000 francs. Trois points. Item le dit évêque requiert en son nom, puisque cette femme a été prise dans son diocèse et sous sa juridiction spirituelle, qu'elle lui soit rendue pour lui faire son procès, comme il appartient. 3 points. Fin de la citation. Il n'obtint pas de réponse. Le 21 novembre, l'université lui fit comprendre qu'il fallait qu'il fasse diligence. 2 points. Entre guillemets. Veuillez tâcher de la faire promptement conduire dans cette ville de Paris, où le nombre de savants et des érudits est considérable, afin que sa cause puisse être examinée plus diligemment et jugée plus sûrement. Fin de la citation. Du début novembre jusqu'au 21, Jeanne fut prisonnière à Arras. Du 21 novembre au 20 décembre, au Crotoy. Le 6 décembre, Jeanne fut livrée aux Anglais contre une rançon de 10 000 couronnes. Elle fut encore réclamée par Cauchon. Le 23 décembre, on l'amena à Rouen, où elle fut livrée aux autorités ecclésiastiques et emprisonnée au château de Bouvreuil. 2 points, entre guillemets. Jeanne était dans une prison forte, avec des entraves de fer. Elle avait cependant un lit. Elle avait aussi des gardiens anglais, dont elle se plaignit souvent, en disant qu'ils la tracassaient beaucoup et la maltraitaient. Fin de la citation. Elle attendit là son procès, qui devait démarrer le 9 janvier 1431. Chapitre 14. Le procès se déroula du 9 janvier au 30 mai 1431, en 55 séances. Décomposé en 2 parties, 2 points. Le procès d'office, du 9 janvier au 25 mars, pour l'instruction, qui doit aboutir à l'établissement d'un acte d'accusation. Et le procès ordinaire du 26 mars au 30 mai. Les 126 juges étaient pour la plupart français et issus du clergé. La Sainte Inquisition était représentée par le dominicain Jean Lemestre. Celui-ci ne dira mot pendant l'instruction, laissant le sale boulot et le mauvais rôle à Cauchon. Bois-Guillaume et Guillaume Manchon rédigeront la minute latine de ce procès, grâce à laquelle nous le connaissons bien. Et rendons à César ce qui appartient à César. Ce ne sont pas les Anglais qui ont fait brûler Jeanne, mais bien l'Église, qui n'en était pas à son premier coup d'éclat. Du 9 janvier au 20 février, on convoqua les témoins. On nomma toutes sortes d'officiers pour le bon déroulement du procès. On forma les équipes qui devaient juger Jeanne. Du 20 février au 25 mars, phase des interrogatoires. 21 février, première audience publique. 2 points. Jeanne fut introduite dans la chapelle du château de Rouen. Cauchon lui intima l'ordre. 2 points, entre guillemets. Vous jurez de dire la vérité sur ce que l'on vous demandera concernant la matière de foi que vous saurez. Fin de la citation. Jeanne répondit. 2 points, entre guillemets. Pour les révélations qui lui ont été faites de par Dieu, elle ne les avait jamais dites ni révélées à personne, si ce n'est au seul Charles qu'elle dit être son roi et qu'elle ne les révélerait pas, même si on devait lui couper la tête. Fin de la citation. Le reste de la séance fut utilisé pour un interrogatoire d'identité auquel Jeanne se plia de bonne grâce. 22 février, seconde audience publique. 2 points. On l'interrogea notamment sur les premières manifestations de ses voix. La pucelle parla ensuite longuement de tout ce qui lui était advenu de Vaucouleurs à Paris. 24 février, troisième audience publique. Cauchon intima encore à Jeanne de dire toute la vérité, sans restriction, et celle-ci de répondre. 2 points, entre guillemets. Par ma foi, vous pourriez me demander telle chose que je ne vous dirai pas. Il se peut que sur beaucoup de choses que vous pourriez me demander, je ne vous dise la vérité sur ce qui touche les révélations. Je vous le dis, prenez garde à ce que vous dites, mon juge, parce que vous assumez une lourde charge et me chargez trop. » Fin de la citation. On l'interrogea ensuite sur ses voies. Comme on lui demandait si elle était en état de grâce, elle répondit, deux points, entre guillemets, « Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu m'y maintienne. » Fin de la citation. On l'interrogea aussi sur l'arbre des dames, entre guillemets, et le bois chesnu, entre guillemets, de sa jeunesse. 27 février, quatrième audience publique. On l'interrogea encore sur ses voies, sur Sainte Catherine et Saint-Michel, qui lui étaient apparus. 1er et 3 mars, cinquième et sixième audience publique, encore des interrogatoires sur la vie de Jeanne, l'échec à la charité sur Loire, les paroles et apparitions de Sainte Marguerite et Saint-Michel, le signe donné au dauphin sur le fait qu'elle portait un habit d'homme, son étendard, son séjour, entre guillemets, à Beaurevoir et sa tentative d'évasion. Après l'audience du 3 mars, Jeanne fut reconduite en sa prison. 15e chapitre. Du 4 au 9 mars, les juges examinèrent les réponses de Jeanne au domicile de Monseigneur Cochon. Pour « fignoler » entre guillemets le dossier, ils décidèrent que certains d'entre eux iraient en la prison de Jeanne et l'interrogeraient. 10 mars. Interrogatoire sur sa capture à Compiègne et sur le signe envoyé au dauphin à Chinon. Deux points, entre guillemets. Je ne vous dirai autre chose. Nul homme ne saurait décrire aussi riche chose que ce signe. Toutefois, le signe qu'il vous faut, c'est que Dieu me délivre de vos mains. C'est le plus certain qu'il vous sache envoyer. Fin de la citation. 12 mars. Sur le signe envoyé au dauphin, sur ses voies, sur son départ de chez ses parents, sans leur permission, sur son habit d'homme, pensait-elle méfaire? Réponse. Non, encore à présent, si j'étais en France avec cet habit, il me semble que ce serait un grand bien pour mon parti. Fin de la citation. 13 mars. Sur ses échecs devant Paris et la charité, sur le signe envoyé au dauphin, deux points, entre guillemets, ce fut que l'ange confirmait mon rouet en lui apportant la couronne et en lui déclarant qu'il aurait tout le royaume de France avec l'aide de Dieu, et cela par mon labeur. Fin de la citation. 14 mars, sur Sainte-Catherine, sur l'attaque de Paris, un jour de fête religieuse, sur Franquet d'Arras, que Jeanne abandonna au bailli de Senlis, sur Beaurevoir. Pourquoi avait-elle sauté de la tour du château? Évasion ou suicide? Réponse. Elle répondit qu'elle avait entendu dire que tous ceux de Compiègne, jusqu'à ceux qui atteignaient l'âge de 7 ans, devaient être mis à feu et à sang, et qu'elle aimait mieux mourir que vivre après une telle destruction de bonnes gens, et ce fut l'une des raisons de son sceau. L'autre fut qu'elle avait été vendue aux Anglais et elle aurait mieux aimé mourir que d'être en la main des Anglais, ses adversaires. Fin de la citation. Croyait-elle se tuer en sautant? Réponse. Elle répondit que non, mais en sautant, elle se recommanda à Dieu et elle croyait, par le moyen de ce saut, échapper à ce qu'elle fut livrée aux Anglais. Fin de la citation. 15 mars, sur les saintes et les anges qui lui sont apparus. 17 mars, sur les saints et les saintes, sur son étendard, si Dieu aimait les Anglais. Réponse. De l'amour ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, ou de ce qu'il fera à leurs âmes, je ne sais rien, mais je sais bien qu'ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui y mourront. Fin de la citation. Puis on la laissa à nouveau. Le 24 mars, après un examen minutieux du dossier, on fit la lecture des « questions-réponses » entre guillemets à Jeanne, elle fit très peu d'observations. 16e chapitre. Le 26 mars, Cochon et ses experts, entre guillemets, décidèrent de procéder contre Jeanne à un procès ordinaire qui était une suite logique à l'instruction précédente. Le 27, le promoteur Jean d'Estivet proclama à Jeanne une supplique annonçant qu'elle aura à répondre à chaque article de l'acte d'accusation. Il y en avait 70 en tout. On proposa à la jeune femme d'être assistée. Elle refusa. Le 28, d'Estivet entreprit de lire un préambule où Jeanne était accusée d'être, deux points, entre guillemets, sorcière ou lectrice de sorts, devineresse, fausse prophétesse, invocatrice et conjuratrice de malins esprits, superstitieuse, impliquée et appliquée aux arts magiques, mal pensante, trois points, apostate à la foi, maldisante, malfaisante, blasphématrice envers Dieu et ses saints, scandaleuse, séditieuse, troublant et empêchant la paix, excitant aux guerres, cruellement altérée de sang humain, ayant abandonné sans honte la décence et la réserve de son sexe, prenant sans pudeur l'habit infâme et l'état des hommes d'armes, pour cela et d'autres motifs, encore abominables à Dieu et aux hommes, prévaricatrice des lois divines et naturelles et de la discipline ecclésiastique, séductrice des princes et des simples, en permettant et consentant à l'injure et au mépris de Dieu qu'elle soit vénérée et adorée en donnant ses mains et ses vêtements à baiser, usurpatrice des hommages et au culte divin, hérétique ou du moins véhémentement suspecte d'hérésie. Fin de la citation. Après cela, d'Estivet procéda à la lecture des 70 articles de l'acte d'accusation, dont le préambule ci-dessus en est le résumé. Jeanne se défendit bec et ongles, comme d'habitude. Le 31, on l'interrogea encore pour un complément d'informations, notamment sur ses voix. Les 2, 3, 4 et 5 avril, Cochon, Lemestre et Nicolas Midi condensèrent les 70 articles en 12 articles qui furent envoyés aux « docteurs » et « experts » entre guillemets, pour délibération sous forme d'une cédule réquisitoire portant sur les points suivants. Deux points. Premièrement, ses voix, ses visions et sa mission, entre guillemets. Deuxièmement, le signe envoyé au dauphin Charles. Troisièmement, le fait que Saint-Michel lui est apparu. Quatrièmement, grâce à ses voix, elle croit savoir que certains événements doivent survenir. Cinquièmement, le fait qu'elle a porté des habits d'homme. Sixièmement, le fait d'écrire des lettres avec en tête Jésus-Marie. Septièmement, son départ de Don Rémy à 17 ans. Huitièmement, sa tentative de suicide, entre guillemets, à Beaurevoir. Neuvièmement, Sainte Catherine et Marguerite lui promettent le paradis si elle garde sa virginité. Dixièmement, le fait que Dieu aime certaines personnes, mais pas les bourguignons. Onzièmement, la révérence qu'elle fait aux saintes quand elles apparaissent. Douzièmement, le fait que si l'Église lui ordonne de faire quelque chose de contraire au commandement de Dieu, elle refusera de lui obéir. Dans les jours suivants, Cochon et ses assesseurs reçurent les réponses des docteurs et experts. La plupart étaient convaincus de l'hérésie de Jeanne. Le 2 mai, Jeanne persista à dire qu'elle respecte l'Église militante, celle du pape, mais que son seul juge est l'Église triomphante, celle de Dieu. Elle fut menacée d'être abandonnée par l'Église si elle s'opiniâtrait dans le refus de se soumettre. Le 9, on intima l'ordre à Jeanne de répondre la vérité, comme s'il ne la savait pas, sur les points qu'elle avait autrefois niés, sous peine d'être soumise à la torture. On lui montra les instruments prévus pour cela. deux points, entre guillemets. Si vous deviez me faire arracher les membres et faire partir l'âme du corps, je ne vous dirais pas autre chose. Et si je vous en disais quelque chose après, je dirais toujours que vous me l'auriez fait dire par force. Fin de la citation. Le 12, en présence de Cochon et de Lemestre, 12 assesseurs votèrent, entre guillemets, pour l'application de la torture. 3 votèrent pour, Thomas de Courcelles, Nicolas Loiseleur et Robert de Barbier. Et les 9 autres contre, pensant que c'était inutile en raison de la volonté de la jeune femme. Comme la majorité a toujours raison, Jeanne put éviter ce supplice. 17e chapitre. Cochon avait envoyé à Paris 3 de ses compères, Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicolas Midi, afin d'exposer l'affaire Jeanne d'Arc, entre guillemets, à l'université. Celle-ci délibéra le 29 avril sur les 12 articles précédemment cités. Le 13 mai, l'université fit parvenir sa réponse à Cochon. Deux points, entre guillemets. Primo, que cette femme est schismatique, puisque le schisme est une séparation illicite de l'unité de l'Église. Trois points. Item, que cette femme erre en la foi, contredit l'article de la foi contenu dans le symbole. Deux points. Unam sanctam ecclesiam catholicam. Trois points. Item, que cette femme est apostate, car la chevelure que Dieu lui donna pour voile, elle la fit couper mal à propos. Trois points. Et elle abandonna l'habit de femme. Trois points. Item, que cette femme est menteuse et devineresse, quand elle se dit envoyée de Dieu, et qu'elle ne se justifie pas par miracle, en témoignage spécial de l'Écriture. Trois points. Item, que cette femme erre en la foi. Trois points. En déclarant qu'elle aime mieux ne pas recevoir le corps du Christ, ne pas se confesser dans le temps ordonné par l'Église, que de reprendre l'habit d'homme. Trois points. Item, que cette femme erre encore, lorsqu'elle est aussi certaine d'être menée en paradis, que si elle était déjà dans la gloire des bienheureux. Trois points. En conséquence, si cette femme, charitablement admonestée par un juge compétent, ne veut pas revenir de bon gré à l'unité de la foi catholique, abjurer publiquement son erreur, au bon plaisir de ce juge, et donner convenable satisfaction, elle doit être abandonnée à la discrétion du juge séculier, et recevoir la peine due à l'importance de son crime. Fin de la citation. Le 19 mai, on procéda à la lecture de la réponse ci-dessus. Les 51 personnes présentes ce jour-là en approuvèrent les conclusions. Le 23 mai, on résuma à Jeanne la délibération de la faculté et on tenta une dernière fois de la raisonner, de lui faire abjurer ses erreurs. Vainement. La cause était entendue. Il ne restait qu'à prononcer la sentence. Le 24, Jeanne fut conduite au cimetière de Saint-Ouen. Là, Monseigneur Cochon commença à lire la sentence qu'il avait préparée. Et soudain, à la moitié de sa lecture, Jeanne, effrayée par l'idée du bûcher, s'écria qu'elle acceptait tout ce que voulait l'Église, qu'elle abjurait ses erreurs. On lui apporta une cédule d'abjuration qu'elle répéta à haute voix et qu'elle signa de son nom, deux points entre guillemets. Moi, Jeanne, communément appelée la Pucelle, misérable pécheresse, trois points. Je confesse que j'ai très gravement péché en feignant mensongèrement d'avoir eu révélation et apparition de par Dieu, trois points. En portant l'habit dissolu, difforme, et déshonnête, contraire à la décence de nature. Trois points. Confesse aussi que j'ai été schismatique et par plusieurs manières que j'ai erré dans la foi. Trois points. Aussi je jure et promets. Trois points. Que jamais, par quelque exhortation ou autre manière, ne retournerai aux erreurs devant dites. Fin de la citation. Aussitôt, Cochon prononça une autre sentence. Jeanne était condamnée, entre guillemets, à la prison perpétuelle, au pain de douleur et à l'eau de tristesse, afin que tu y pleures ce que tu as commis et que tu ne commettes plus par la suite rien qui faille pleurer. Notre grâce et notre pouvoir de modération étant toujours sauf. Fin de la citation. La pucelle fut reconduite en prison et revêtit des habits féminins. Elle était devenue une prisonnière, et cela pour le restant de sa vie. 18e et dernier chapitre. Les Godons étaient furieux. Jeanne échappait au bûcher. Le capitaine anglais de Rouen, Warwick, fit savoir son mécontentement à Cochon. Celui-ci aurait répondu, Messire, ne vous mettez pas en souci, nous la rattraperons bien. Fin de la citation. Le 28 mai, quelques juges se précipitèrent dans la prison de Jeanne. On les avait prévenus que la pucelle avait repris les habits masculins, alors qu'elle avait juré de ne plus le faire. Là, l'histoire est un peu floue. Jeanne dira qu'elle remit des habits d'homme de son plein gré. Mais plus tard, l'huissier Jean Massieu dira que ses gardiens lui avaient dérobé ses vêtements féminins et qu'elle fut donc obligée de se vêtir en homme, entre guillemets, pour pouvoir se montrer. À cette occasion, les juges lui rappelèrent qu'elle avait signé une cédule d'abjuration dans laquelle elle jurait de ne pas se vêtir ainsi. Et ils la questionnèrent encore sur ses voies. Jeanne répondit qu'elle les avait entendues depuis le 24 mai et qu'elle était persuadée qu'elle venait de Dieu. Les juges lui rappelèrent qu'elle avait reconnu ses mensonges. Tout ce que j'ai fait, c'est par peur du feu. Tout ce que j'ai révoqué est contre la vérité. J'aime mieux faire ma pénitence en une fois. C'est à savoir mourir que d'endurer plus longue peine de prison. Fin de la citation. Elle avait tout dit. Les juges l'abandonnèrent. Le 29, Cochon déclara que Jeanne était relapse, c'est-à-dire qu'elle était retombée dans l'hérésie. La sentence sera exécutée le lendemain, 30 mai, à 8h du matin, sur la place du Vieux Marché. Ce matin-là, Jeanne put communier. Ensuite, très fortement escortée, par crainte d'un enlèvement, elle fut conduite sur la place. Là, Cochon proclama la sentence définitive. Devant une foule nombreuse, composée d'Anglais pressés et rieurs, et de Français consternés et tristes. Le bourgeois de Paris, qui n'a pas assisté à l'exécution, elle fut liée à un pieu qui était sur l'échafaud qui était de plâtre, et le feu sur lui. Et là, elle fut bientôt asphyxiée et sa robe toute brûlée. Et puis les flammes furent poussées en arrière, et elle fut vue de tout le peuple, toute nue, et tous les secrets qui peuvent être ou doivent être encore de femmes, cela pour ôter les doutes du peuple. Et quand ils l'eurent tous assez vue et à leur gré, morte et liée au poteau, le bourreau mit le feu à son pauvre cadavre, qui fut bientôt entièrement brûlé, et ses os et chair mis en cendres. Il y en avait qui disaient que c'était une martyre, qui était morte pour son vrai Seigneur, et d'autres qu'elle avait mal agi, et fait beaucoup de mal à ceux qui l'avaient tant gardée prisonnière. Ainsi disait le peuple. Mais quelque mal ou bien qu'elle ait fait, elle n'en fut pas moins brûlée ce jour-là. Fin de citation. On peut trouver un réconfort en se disant qu'elle est morte asphyxiée plutôt que brûlée. Jeanne mourut en criant le nom de Jésus devant la foule devenue soudain silencieuse, même les Anglais. Un de ses juges, Jean Alespé, en larmes, dira, je voudrais que mon âme fût où je crois qu'est l'âme de cette femme. Fin de la citation. Jean Tressard, secrétaire du roi d'Angleterre, nous sommes tous perdus. Nous avons brûlé une personne sainte. Son âme est sûrement dans la main de Dieu. Au milieu des flammes, elle n'a cessé de proclamer le nom de notre Seigneur Jésus. Fin de la citation. Ses cendres furent jetées dans la Seine, afin d'éviter qu'on en fît des reliques. Le 10 novembre 1449, Charles VII fit une entrée triomphale dans Rouen, mettant fin ainsi à la reconquête de la Normandie. Aussitôt, il chargea Guillaume Bouillé de diligenter une enquête sur le procès de 1431. Cette enquête dura jusqu'en 1456. On interrogea tous ceux qui avaient connu Jeanne, ses amis, ses compagnons d'armes, le Bâtard et d'Alençon notamment, et même certains de ses juges. Le 7 juillet 1456, on proclama une sentence d'annulation. Nous disons et prononçons, décidons que l'édit procès et les sentences contenant dol, calomnie, contradiction et erreur manifeste de droit et de fait, ainsi que la susdite abjuration, l'exécution et toutes les suites furent et sont nulles, invalides, sans effet et sans valeur. Fin de la citation. Fin de la biographie de Jeanne d'Arc, telle qu'on la trouve sur le site roietprésident.com.